Chapitre 29. Bobby était perché à 10 mètres du sol, calé sur les branches dénudées d'un énorme chêne. Il portait un gilet par éclat sur une tenue de combat noire. Sur le front, des lunettes de vision nocturne. Dans les bras, un fusil Sig Sauer SSG 3000 muni d'une lunette Leupold à grossissement variable 3,9 par 50 mm et chargé avec des cartouches Remington, des Federal Match 168 grains de calibre 308. Ça aurait dû lui rappeler la belle époque, celle où il pouvait courir plus vite qu'une balle lancée à pleine vitesse et franchir d'un bond d'immenses bâtiments. Où il était l'as des as, le plus dur des durs. Où il avait une mission, une équipe, un but dans la vie. En réalité, il avait surtout envie de tordre le cou à Didi. Le message laissé sur la voiture de Didi contenait des instructions explicites. À 3h33, le médaillon devait être remis sur le site de l'ancien hôpital de Boston, devant les ruines du bâtiment de l'administration. Didi devait l'apporter elle-même, elle devait le porter autour du cou. Elle devait venir seule. Bobby était peut-être un enquêteur débutant, mais il avait servi 7 ans dans une unité tactique. Il s'y connaissait en stratégie. Les opérations spéciales étaient son domaine. Didi lut le message et y vit une occasion. Il lut le message et y vit un leurre. Pourquoi Didi? Pourquoi seul? Pourquoi, s'il ne s'agissait que de rendre le bijou, devait-elle porter le médaillon autour du cou? Et puis, il y avait le site lui-même, 80 hectares de forêt, 2 ruines croulantes, un chantier de construction et une scène de crime souterraine. Il n'y avait pas assez de force d'intervention dans toute la Nouvelle-Angleterre pour sécuriser une superficie pareille, surtout dans des délais aussi serrés. Didi avait rétorqué qu'il n'y avait que 2 voies d'accès au site, faciles à contrôler. Bobby avait fait remarquer qu'il n'y avait officiellement que 2 points d'entrée ou 2 sorties, mais que les gens du quartier avaient creusé sous les clôtures, découpé des trous dans les grillages et fait les 400 coups dans le parc pendant des décennies. Le site était un vrai gruyère, ses frontières étaient poreuses et ses clôtures inopérantes. Il leur fallait des unités tactiques. Son ancienne équipe, pour commencer, ce qui ferait entrer 32 hommes dans le jeu. Il serait même prêt à accepter de travailler avec les forces d'intervention de la ville de Boston si les gars promettaient de ne pas toucher à son flingue. Un policier est un policier, leurs entraînements se valaient, et pour être honnête, les types de Boston n'étaient pas trop mauvais, même si ceux de l'État répugnaient à dire ce genre de choses à voix haute. Il aurait aussi aimé des hélicos, des chiens et des caméras infrarouges disposées à intervalles stratégiques. Didi, naturellement, avait décidé de déployer 1 seul homme sur le site, lui. Les autres formeraient un cercle discret, prêts à se resserrer autour de l'individu dès qu'il se présenterait. La présence d'un trop grand nombre d'agents pourrait le dissuader d'approcher. Pareil pour les renforts aériens. Les caméras de surveillance n'étaient pas une mauvaise idée, mais il n'avait pas le temps d'installer un système aussi sophistiqué. Elle s'était donc rabattue sur du basique. Des chiens anti-explosifs avaient fait une inspection 3 heures plus tôt, pendant que 2 douzaines d'officiers passaient les bois au peigne fin dans les environs immédiats. Puis la logistique avait installé à la hâte des détecteurs qui émettaient des rayons infrarouges et qui, de point en point, délimitaient un périmètre autour de la zone de rendez-vous. Dès qu'un rayon serait coupé, un signal serait envoyé au centre de commandement qui avertirait Bobby et Didi de l'arrivée de l'individu. Didi était équipée de matériel de liaison sous son gilet en kevlar blindé au carbure de bord. Elle portait une oreillette pour la réception et l'émetteur était intégré à son gilet. Cela lui permettait de communiquer avec Bobby, de même qu'avec le centre de commandement installé dans une fourgonnette de l'autre côté de la rue, près du cimetière. Didi était une imbécile, un commandant buté, entêté, borné, qui croyait sincèrement pouvoir sauver le monde en une soirée. Bobby ne pensait pas que c'était une question d'ambition, il pensait, et c'était plus effrayant, que Didi était curieuse. Elle était persuadée que l'individu se montrerait, et à ce moment-là, elle espérait découvrir s'il s'agissait de Christopher Riola ou du père depuis longtemps disparu d'Annabelle. Après quoi, elle captiverait tellement le tueur d'enfants par sa beauté éblouissante et ses réparties spirituelles qu'il n'aurait même pas l'idée d'aller enlever une autre petite fille. Au contraire, il raconterait à Didi tout ce qu'elle avait besoin de savoir, juste avant que l'équipe d'intervention ne fasse une descente et ne l'embarque, menottes au poignet. Didi était une imbécile, un commandant buté, entêté, borné. Bobby se pencha en avant. Ajusta sa lunette Leupold, s'efforça de faire abstraction du bruit du vent qui faisait frémir dans les arbres squelettiques. Ses mains ne tremblaient pas, c'était déjà ça. Après la fusillade, pendant ce moment où il voyait encore la tête de Jimmy Gagnon partir brutalement en arrière, le sang et la cervelle jaillir du crâne, Bobby s'était demandé s'il pourrait à nouveau être un jour à l'aise avec une arme. Il s'était demandé s'il aurait envie d'être à nouveau à l'aise avec une arme. Il n'avait jamais été un fanatique des armes à feu, n'avait jamais tiré au fusil avant de fréquenter l'école de police. Là-bas, il avait découvert qu'il n'était pas mauvais. Avec un peu d'entraînement, il faisait des scores de spécialiste. Avec un peu d'encouragement, il devint tireur d'élite. Mais ça n'avait jamais été le grand amour. Le fusil n'était pas le prolongement de son bras, une vocation. C'était un outil avec lequel il se révélait extrêmement doué. 3 jours après avoir descendu Jimmy Gagnon, il s'était rendu dans un stand de tir et avait pris un pistolet. Avec le premier chargeur, résultat nul. Le deuxième, pas trop mal. Il se disait qu'il était comme un plombier qui se refamiliarisait avec son boulot. Tant qu'il restait dans cet état d'esprit, il était bon pour le service. Le vent souffla à nouveau, apportant quelques gouttelettes de bruine, agita les branches autour de lui. Bobby crut entendre une autre plainte sourde, se redit qu'il ne croyait pas aux fantômes, pas même sur le site d'un ancien asile psychiatrique. Foutu, Didi. Sa montre lumineuse indiquait 3h21. 12 minutes et quelques, il abaissa les lunettes sur ses yeux et localisa son entêté d'ami. Didi faisait les 100 pas devant les murs de briques écroulés de l'ancien bâtiment. Sa silhouette normalement svelte semblait massive et difforme, les effets du gilet en Kevlar. Vu la météo, elle portait un blouson imperméable jaune vif par-dessus son habituelle chemise blanche impeccable. Pas de chapeau qui réduirait son champ de vision, pas de parapluie qui l'encombrerait. Elle fit demi-tour, revint vers lui, et Bobby aperçut le vieux médaillon en argent qui brillait au creux de sa gorge. Il revit la photo en noir et blanc de Dori Petracelli portée disparue, le même médaillon luisant autour du cou. L'individu jouait avec eux. Il se fichait du médaillon, et s'il voulait enlever une autre fillette, il enlèverait une autre fillette. Les pervers sont comme ça. Mais peut-être que Didi n'avait pas non plus tout à fait tort. Avec ses actes inconsidérés, elle leur donnait une nuit de plus. Les instructions données par l'individu étaient explicites et personnelles. Manifestement, il s'était pris d'une certaine affection pour Didi, suffisamment pour avoir envie de voir le trophée d'une de ses anciennes victimes au cou du commandant chargé de l'enquête. Peut-être qu'il était déjà là, perché dans un autre vieil arbre, ou même planqué à l'intérieur des ruines en briques. Peut-être qu'il regardait en bas, qu'il regardait dehors, qu'il observait la démarche de Didi, qu'il admirait ses longues jambes musclées, son élégance athlétique naturelle. Elle arriva au mur en ruine du bâtiment, tourna les talons, repartit en sens inverse. 3h31. Pourquoi 3h33 d'ailleurs? Pourquoi une telle précision? L'individu aimait-il la symétrie du 3-3-3? Ou bien était-ce encore une façon de les faire marcher? Le lieutenant Trenton du poste de commandement lui parla soudain à l'oreille. « On a une activité. Périmètre franchi, plein ouest. » Didi conserva le même pas régulier, même si elle avait dû entendre l'information. Bobby surveilla les lieux à sa gauche. Il guettait des signes de vie. Une ombre noire jaillissant soudain des broussailles, à l'instant même où le lieutenant Trenton lui reparlait à l'oreille. « Encore du mouvement. Nord. Activité. Est. Non, sud. Non, attendez. Merde. 4 côtés franchis. Périmètre envahi de toutes parts. Bobby, vous recevez ?» Bobby entendait. Bobby voyait. Bobby agissait. Le fusil, l'orienter, repérer, viser, appuyer sur la détente. Un grondement interrompu et une silhouette noire s'effondra, pendant que 3 autres formes enragées surgissaient des bois. Didi se mit à hurler et tout se passa en même temps. Bobby se tourna, essaya de viser et réalisa que les chiens d'attaque déboulaient si vite qu'ils étaient maintenant trop près pour la portée de sa lunette. Il jura, releva la tête et fit les choses à l'ancienne. Bref pression, un grondement sinistre et le deuxième chien s'effondra. Coup de feu en bas. Bobby repéra Didi à 60 mètres. Elle courait vers son arbre en tirant comme une folle par-dessus son épaule, mais elle n'allait pas y arriver. Il respirait trop difficilement, trop vite. Se centrer, être présent mais détaché. Trouver la cible, se concentrer sur elle. Gros chien noir taché de beige, convergeant vers un autre chien noir de 50 kilos, faisant bloc à la poursuite de leur proie. Une branche d'arbre dans le champ, une autre. Maintenant, pendant qu'il passait dans un mince intervalle entre les branches, il appuya sur la détente. 3e chien à terre. Pendant que le 4e s'élançait dans les airs et atterrissait sur le dos de Didi. Elle s'effondra et le chien referma ses énormes mâchoires sur son épaule, déchiquetant son blouson jaune en vinyle. « Officier à terre ! Officier à terre !» hurla Bobby. « Demande assistance immédiate ! Immédiate !» Puis il se fraya un passage entre les branches pour redescendre au sol 10 mètres plus bas, empêtré dans son fusil, pendant que le chien cherchait la nuque de Didi avec un terrible grognement mouillé. Bobby se dégagea d'entre les branches, sauta les 3 mètres qui restaient, et quand il roula au sol, la douleur lui foudroya les chevilles. Le fusil était inutile. La balle puissante traverserait le chien et atteindrait Didi. Il prit donc plutôt son Glock, accroché dans son dos tout en courant. Didi bougeait encore. Il la voyait battre des bras et des jambes. Elle s'efforçait de se dégager de cet énorme poids, donnait de faibles coups à la tête du chien derrière elle. Le chien luttait contre son gilet en kevlar, essayait de le déchirer à coups de dents et de griffes, essayait de plonger ses crocs dans une tendre chair blanche. Bobby accourut. Le Rottweiler ne leva jamais la tête. Bobby posa la gueule de son arme sur l'oreille de l'animal, appuya sur la détente. L'énorme bête s'affaissa, et le silence retomba enfin dans les bois. Il leur fallut 10 minutes pour décrocher les mâchoires de l'animal de l'épaule gauche de Didi. Ils la roulèrent sur le côté pendant qu'il travaillait, sans que Bobby arrête jamais de lui parler. Elle lui serrait la main comme un étau, refusait de la lâcher, ce qui n'était pas un problème parce qu'il ne l'aurait pas laissé faire. Du sang, un peu sur la joue, dans le cou, moins grave que ce qu'on craignait. Le gilet avait protégé son dos des griffes du chien. Quand elle était tombée vers l'avant, le kevlar était remonté et avait protégé sa nuque des crocs. Elle avait perdu un lambeau de peau le long de la mâchoire, quelques touffes de cheveux à l'arrière de la tête. Étant donné ce qui aurait pu arriver, elle ne se plaignait pas. Les agents parvinrent enfin à dégager le Rottweiler, qui retomba mollement à terre à côté d'elle. Elle s'accrocha à Bobby, qui l'aida à se relever.
« D'où venaient les chiens ?»
demanda-t-elle. Un urgentiste était arrivé, il essaya de prendre sa tension. L'imperméable était trop épais. Elle l'enleva distraitement et le mouvement la fit grimacer.
« Des bois !»
répondit Sinkus, qui venait de les rejoindre à bout de souffle. « Pas encore de traces d'intrusion humaine. » Mais on a retrouvé 4 cages métalliques à 200 mètres d'ici, recouvertes de végétation et équipées d'une minuterie. Quand ça a affiché 3h33, le courant électronique s'est coupé et les portes se sont ouvertes, libérant les chiens. Bobby leva les yeux. Et tous les 4 se sont précipités vers la même cible.
Chaque cage contient... des dessous, dit Sinkus.
Des dessous? Demanda Didi en se touchant précautionneusement la mâchoire, en tâtant l'écorchure sanglante.
Ouais. Des sous-vêtements. Un par cage. Je m'avance peut-être un peu, mais je parie que ces strings sont à toi.
Quoi ? Dit Didi en se retournant brusquement. L'urgentiste lui ordonna de se tenir tranquille. Elle lui décocha un regard tellement assassin qu'il battit en retraite. C'était bon de savoir que Didi se sentait mieux, même si en contrepartie ses doigts écrasaient maintenant la main de Bobby.
Est-ce que tu as remarqué quelque chose chez toi ? Demanda Sinkus. Comme si quelqu'un avait fouillé dans tes tiroirs, ou plus probablement dans ton linge sale. Ça marche mieux si l'objet porte ton odeur.
Je n'ai pas été suffisamment chez moi ces 4 derniers jours pour vérifier mes tiroirs, ni, soupira-t-elle rageusement, pour faire une quelconque lessive.
Bon, ben voilà, le type a pris quelques marqueurs olfactifs. N'importe quel chien d'attaque bien dressé sait faire ensuite.
Didi n'aimait franchement pas cette idée. Elle se retourna, regarda le corps du chien par terre. Grand, noir, puissamment musclé. Elle toucha ses flancs. Son visage n'exprimait pas tant de la colère que du regret. Mon oncle avait un Rottweiler, elle s'appelait Meadow, le plus gros chien et le plus doux qu'on puisse imaginer. Elle me laissait grimper sur son dos. La main de Didi se déplaça, trouva le fil de fer torsadé autour du cou de l'animal, le collier préféré des dealers et des organisateurs de combat.
« Connard !» grogna-t-elle soudain. « Ce chien a probablement été dressé depuis sa naissance. Il n'a jamais eu sa chance. »
Bobby ne pouvait plus regarder Didi. Après tout, c'était lui qui avait descendu les 4 molosses qui l'attaquaient. Et s'il ne pouvait pas s'en vouloir, vu les circonstances, il ne pouvait pas non plus s'en réjouir.
« Je ne comprends pas, » marmonna Didi. Me faire porter le médaillon était à peu près logique pour un cinglé, ça lui donnait un petit frisson. Mais pourquoi faire tout ça pour ce genre de mise en scène? C'est comme une agression à distance. Seulement, je ne crois pas que notre homme soit du genre distant. Je crois qu'il est du genre affrontement intime et personnel.
« C'est élaboré, » commenta Sinkus. « L'occasion de faire étalage de son intelligence, quelque chose que ferait Eola. »
Didi ne releva pas, Bobby non plus. Il repensait à ce qu'elle avait dit. Le message laissé sur le pare-brise de Didi était personnel. Le choix des trophées pour chacun des corps retrouvés était aussi personnel, de même que cette façon de laisser des cadeaux à Annabelle. En l'occurrence, la mise en scène avait impliqué de voler les sous-vêtements de Didi, il avait dû adorer. Alors pourquoi ne pas rester dans le coin pour profiter du spectacle ? Didi avait raison. L'individu s'était donné beaucoup de mal pour les préliminaires, et ensuite il s'était privé du clou des réjouissances. Quelque chose clochait. Ce taré ne fonctionnait pas comme ça.
« Continuez à fouiller le parc !» disait Didi. « En plus d'un intrus, demandez aux techniciens de chercher des équipements vidéo, des systèmes d'écoute. Peut-être que notre individu a décidé de mettre en scène le spectacle pour pouvoir l'enregistrer. » Et le regardait bien au chaud chez lui. Il voulait un peu d'action ou une vidéo à diffuser sur Internet.
« On va continuer à chercher, » lui assura Sinkus.
« Il nous faut des hélicos, » s'énerva Didi en chassant avec impatience l'urgentiste qui s'attardait. « Et des chiens.
Bordel, il faut appeler la garde nationale. Putain de parc de 100 hectares. Putain de maison de fou. Il pourrait se planquer des jours sans qu'on voie rien.
Cincus hochait la tête, prenait des notes, s'apprêtait à claquer le budget annuel du service en une nuit de recherche.
Bobby n'aimait toujours pas ça. Pourquoi un scénario aussi élaboré? Il cherchait un pédophile, un homme qui avait l'habitude de s'en prendre à de jeunes enfants. Et maintenant, d'un seul coup, il avait des vues sur une femme adulte, un commandant de police, probablement intelligente, armée et préparée. Est-ce que les pédophiles viraient leur cutie si facilement? Passaient des petits-enfants aux figures d'autorité?
À moins que... D'un seul coup, il comprit tout. À moins que l'homme n'ait jamais changé d'objectif.
Qu'il ait toujours gardé les yeux rivés sur la même cible, une cible qui, depuis qu'elle avait récemment refait surface, avait passé les deux derniers jours entourée d'une protection policière.
Jusqu'à cette nuit, ou à la faveur de cette opération,
Bobby se retourna brusquement vers ses collègues. « Annabelle !»